Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours.
Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun.
Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit.
Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur.
Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute.
Votre site internet WordPress chouchouté, surveillé et au meilleur de ses performances toute l'année? Avec le service de maintenance WordPress de Maje, votre site vitrine ou e-commerce est protégé et techniquement optimisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Détection des failles de sécurité, sauvegarde quotidienne, monitoring du site et remise en ligne en cas de problème, mise à jour des extensions WordPress, l'équipe de Maje assure la maintenance de votre site de A à Z. Adieu les mises à jour qui font planter le site, plus d'emails de clients pour prévenir que le site est inaccessible. Avec le service de maintenance clé en main de Maje, gagnez des heures de travail, évitez les opportunités perdues et les prises de tête sur votre site internet. Chez My Marketing Experience, Maje gère la maintenance technique de notre site et de ceux de nos clients et on apprécie particulièrement leur réactivité et leurs conseils avisés. Pour tout savoir sur les offres de maintenance et d'assistance WordPress de Maje, rendez-vous sur maje.mc/mmx/maintenance-wordpress ou cliquez sur le lien dans la description.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Seron, qui est spécialiste en copywriting B2B, pour venir nous parler de comment créer des campagnes d'email qui convertissent. Salut Olivier, comment ça va ?
Eh bien, écoute, très très bien Laurie, je suis vraiment ravi d'être ici. Je te l'ai souvent dit, tu sais que je suis fan de ton podcast, donc passer dessus, c'est vraiment un grand moment et c'est très agréable à vivre.
Bah écoute, moi je suis ravie de te recevoir. Olivier, on se connaît depuis un petit moment maintenant. Moi, je t'ai découvert, il me semble, il y a environ 2 ans, lors du Refer Challenge, me semble-t-il. Tu vois, je vais faire ma petite fan aussi. Je suis assez fan de ta communication, notamment sur LinkedIn, qui est toujours pleine d'humour. Tu as toujours des exemples et des histoires, puisqu'en fait, c'est ton métier, donc tu l'illustres très bien, où tu vas raconter des histoires pour expliquer des concepts. Et c'est une très, très bonne manière de faire passer déjà des idées. Et puis, passer des idées, et finalement, c'est vendre. Tu en as fait ta spécialité, et j'imagine que tu écris aussi des belles histoires pour tes clients.
Ah ben absolument. Ce n'est pas l'objet forcément du podcast d'aujourd'hui, mais les histoires créent des émotions. Les émotions favorisent la mémoire. La mémoire permet d'être retenue. Et donc, quand le prospect veut passer à l'achat, il pense forcément à vous si vous avez distillé une bonne histoire, d'où l'intérêt.
Oh, moi, je pense que c'est quand même un petit peu le thème, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'emails qui convertissent. Donc, comment rédiger des campagnes de mails qui convertissent, c'est-à-dire qui permettent de vendre. Et ça, c'est ta spécialité, entre autres, puisque tu es spécialiste dans tout ce qui est différents types de rédaction de contenu. Mais la finalité, c'est toujours de vendre. Si tu es prêt, bah, écoute, je te propose qu'on commence.
Bah, écoute, c'est parti. Je suis chaud.
Déjà, Olivier, est-ce qu'on pourrait juste faire un petit point pour qu'il n'y ait pas de confusion entre deux choses qui sont souvent mélangées, et c'est vrai que ce n'est pas forcément facile quand on n'est pas du métier, entre l'email marketing, donc l'emailing, et la newsletter. Parce que c'est vrai que parfois, on pense email, on se dit newsletter, et aujourd'hui, je voudrais vraiment clarifier le fait qu'on va parler d'email de vente. Donc, est-ce que tu peux juste nous faire un rapide topo sur les deux pour pas qu'il y ait de confusion et qu'on parte sur des bonnes bases?
Oui, bien sûr. Alors, la newsletter, il faut vraiment le prendre et l'envisager comme un support qui est avant tout là pour informer, aider ou accompagner. Elle est là pour présenter des solutions. Bah, par exemple, je pense à ce que vous faites, vous, à travers votre newsletter, où vous parlez comment se positionner, comment créer une offre. Donc, c'est vraiment l'objectif de la newsletter qui peut aussi aider à partager la vie de l'entreprise ou l'actualité du secteur d'activité. Vous pouvez vendre dans une newsletter, mais ce n'est pas l'objectif premier. Par contre, dans l'emailing, c'est juste exactement l'inverse. L'emailing a vraiment un objectif et quand vous le constituez, il est là pour vendre. Ça peut être sur une courte période si vous êtes sur un lancement. Ça peut être si vous êtes dans des lancements permanents, ce qu'on appelle en evergreen. Ça peut être pour vendre à période plus longue, mais l'emailing est là pour vendre. C'est vraiment la deux grosses distinctions qu'on peut faire entre email et newsletter.
Ça peut être aussi, à mon sens, quand tu veux promouvoir un événement ou une participation à un événement, le but, c'est vraiment de convier à adhérer ou de proposer un seul message, on va dire, mais je ne vais pas te spoiler pour la suite. En tout cas, on clarifie, newsletter, c'est comme tu l'as dit, pour venir accompagner le prospect ou le client, d'ailleurs, le contact dans la durée. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre newsletter My Marketing Experience à s'abonner. Elle part tous les jeudis à 8h08. Et ça permet d'être informé toutes les semaines de ce qui se passe chez nous, et notamment de recevoir des conseils hebdomadaires. Et l'emailing, comme tu l'as si bien dit, c'est l'objectif, c'est la vente. Et on va voir justement comment on construit des emailings, aussi appelés email marketing, de manière efficace pour convertir. Alors pour convertir, pour transformer, c'est-à-dire pour vendre tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, Olivier, tu m'as gentiment mis à dispo quelques chiffres clés pour venir appuyer l'email marketing qui, non, n'est pas mort, comme on peut parfois en entendre parler en disant aujourd'hui l'email, plus personne n'y fait attention, ça ne marche absolument plus. Eh bien, on a des chiffres qui disent le contraire. Moi, j'en avais trouvé un et tu m'en as mis à dispo un autre qui est hyper intéressant. Donc, les spécialistes du marketing B2B, ce qui nous intéresse aujourd'hui, chez les spécialistes du marketing B2B, 8 sur 10 affirment que l'email marketing, c'est leur canal de communication le plus performant. Éventuellement, on vous mettra les ressources en commentaire, mais ça, c'est. Moi, je l'ai pris sur HubSpot et honnêtement, je pense que. C'est quelque chose qui est complètement réaliste. Qu'est-ce que tu as de ton côté ?
J'ai trouvé une stat qui disait que l'email était jugé comme le canal le plus fiable pour entretenir et convertir des prospects tout au long d'un entonnoir de vente. Ça, c'était jugé par les marketeurs. C'était le plus fiable à 24%, alors que les réseaux sociaux étaient jugés l'élément le plus fiable à 17%. Ça montre bien l'importance de l'email.
OK, donc on va le redire. Non, l'email marketing n'est pas mort. Il a encore de beaux jours devant lui. En revanche, il faut savoir bien le maîtriser et bien le rédiger. Olivier, ce que je te propose, c'est qu'on passe d'abord en revue toutes les erreurs qu'on peut commettre, tout ce que tu vois tous les jours. Tu en as listé pas mal. Je pense que tu es bien placé pour voir toutes les erreurs qui peuvent se retrouver dans nos campagnes de mail et qui, sans doute, flinguent un petit peu, si je puis dire, leur performance.
Oui, absolument. J'ai listé 6 erreurs. Alors, on aurait pu en lister certainement bien d'autres. J'ai listé 6 erreurs principales qu'on peut retrouver dans l'écriture d'email. On va se concentrer tout d'abord sur le point numéro 1, l'erreur numéro 1, qui est rendre votre email difficile à lire. On est dans de l'écriture commerciale, je crois qu'il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc, a priori, quand vous écrivez un email de vente, une page de vente, enfin, en l'occurrence un email, vous n'avez pas objectif de rentrer à l'Académie française. Donc, il faut vraiment travailler sur un message qui soit simple, parce qu'il y a quand même une règle, ce qui est difficile à comprendre est difficile à acheter. Il faut savoir que notre prospect est sursollicité, vraiment. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à confondre simple et simpliste. Il faut vraiment distinguer ces deux notions-là. Écrire simple ne veut pas dire que vous délivrez un message simpliste. Vous devez vraiment avoir une écriture qui soit accessible et facilement accessible pour le prospect qui vous lit.
Donc, on oublie les tournures alambiquées, on oublie les gros pavés avec les phrases qui font 10 lignes. Tout ça. On essaye d'être concis, simple, direct et de ne pas vouloir, comme tu dis, prétendre à des tournures très recherchées.
Oui, alors parfois, ce qu'on voit, c'est une façon de se réassurer, quel que soit le métier. D'ailleurs, hein, quand tu es dans un métier un petit peu spécifique ou technique, tu peux vouloir montrer ta compétence en utilisant du jargon. Mais si ton prospect n'est pas, entre guillemets, aussi éduqué que toi à ce que tu fais, ben, tu vas le perdre, tout simplement. Donc, on évite le jargon trop technique. Et tu l'as dit, hein, on évite les paragraphes trop longs, on évite les phrases également trop longues, et on pense également à l'aération du contenu, c'est-à-dire même à la forme, parce que le pavé, tout de suite, tu as envie de le fuir. Ce qu'on peut aussi oublier, c'est de vouloir tout dire. Une phrase ne doit avoir vraiment qu'une idée à propulser, donc pas de phrases à rallonge et pas de phrases qui partent dans tous les sens, vraiment. Donc on est vraiment dans cette notion de simplicité.
Ok, bah je pense que là, on est bon. On arrête de vouloir faire des phrases sur plusieurs lignes avec des virgules et 3 idées dedans. On essaye de faire simple pour rendre l'email facile à lire. Donc ça, c'était la première erreur. C'est quand les emails sont trop compliqués, du coup, bah, ça décourage. On ne comprend pas, donc on abandonne. Deuxième erreur que tu peux constater.
Celle de l'intro. On est toujours dans une guerre d'attention, ça, on le sait tous. Et il faut vraiment penser à une intro qui va quelque part droit au but. J'avais lu cette phrase que j'avais beaucoup aimée, qui disait « L'écrivain a passé 5 paragraphes à se racler la gorge ». En fait, non. Quand vous êtes sur une écriture commerciale, vous devez aller droit au but. Quand on écrit un email, très vite, on projette nos prospects là où on veut aller et ce qu'on a à lui dire. Voilà, on se perd pas en des messages un peu obscurs ou essayer d'être trop subtil. Je vous envoie ce mail parce que je veux vous parler d'eux.
Ok, donc dès l'intro, on essaye d'être assez direct pour capter l'attention.
Ouais, absolument. D'ailleurs, c'est une expression aussi que j'aime bien utiliser. En fait, quand vous écrivez un contenu, vous devez saigner à la première ligne. Ça veut vraiment dire que vous devez l'investir, cette première ligne.
Ok, donc finalement, on ne le répétera jamais assez, c'est le haut du message qui va vraiment compter.
Complètement, voilà. Et sachant que dans une intro, comme le reste du contenu, si vous pouvez dire quelque chose en 20 mots, vous n'en employez pas 25, vraiment. Vous devez toujours aller à l'essentiel et couper ce qui dépasse. C'est la méthode vraiment Marie Kondo, vous rangez tout bien et vous en mettez le moins possible dans votre email.
Ok, mais je pense qu'on partage des références. Marie Kondo nous aura inspiré dans beaucoup de professions, en plus du rangement de nos maisons, donc c'est parfait. Troisième erreur que tu peux régulièrement constater.
Alors, c'est celle de la... Je l'ai mise ici, c'est celle de la conclusion. C'est-à-dire que souvent, on voit des mails qui sont bien construits, on va dire bien écrits, et puis quelque part, la conclusion, elle peut être bâclée pour, je dirais, plusieurs raisons. Il peut y avoir, d'une part, la fatigue. Vous avez écrit un email et vous l'avez structuré, et finalement, au moment de conclure, vous devenez un petit peu feignant. Et il y a aussi quelque chose qui est un petit peu plus subtil et que je vois parfois, c'est que des fois, on a peur de vendre. On considère que la vente, c'est un petit peu sale. Donc, on a envie de vendre, c'est bien pour ça qu'on écrit des emails, mais on veut le dire sans le dire.
C'est pas assez franc, c'est-à-dire que on n'est pas assez clair sur ce qu'on attend par la suite.
Ouais, absolument, et on a un peu peur des fois de passer, alors qu'on est là pour vendre, pour entre guillemets un marchand de tapis. Alors que juste apporter de la valeur à un prospect, apporter une solution qui lui convient, lui dire « achète chez moi », c'est pas être un marchand de tapis, c'est être quelqu'un qui propose des solutions.
Et puis finalement, on n'est pas toujours, enfin, je veux dire, on n'est pas là pour enfiler des perles non plus, hein, sans lui mettre le couteau sous la gorge ou faire le grand déballage. L'objectif, c'est quand même de l'emmener à rentrer dans le magasin.
Complètement. Et l'intérêt, je dirais, de travailler sa conclusion, c'est que on a tendance aussi parfois à penser que le prospect comprend ce qu'il doit faire, alors que le prospect, il faut vraiment partir du principe qu'il est sursollicité et qu'il n'a pas le temps. Donc, c'est important que votre conclusion elle, soit vraiment forte. Et qu'ils comprennent là où ils doivent se projeter ensuite.
Oui, donc on arrête de vouloir choisir implicite. Il sait ce que je fais maintenant, s'il a besoin de moi, il m'appelle, ou il sait me joindre. Finalement, quand on envoie ce genre d'email, bah, l'idée, c'est vraiment de guider jusqu'au bout et pas que la fin fasse point, 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 tu sais, où finalement, la personne n'est pas vraiment invitée à aller plus loin.
Complètement, et je peux inviter à le faire. On parle d'email marketing aujourd'hui, mais y compris dans des posts LinkedIn. Vous avez des gens qui vous likent, qui vous suivent ou parfois ont envie d'interagir avec vous. Mais si vous ne mettez pas, et je l'ai vérifié, hein, je me suis amusé à le faire, si vous ne mettez pas une conclusion forte, eh ben les gens le font pas. Voilà, tout simplement.
Oui, c'est vrai que les conseils qu'on partage aujourd'hui sur l'email, il y en a qui vont être spécifiques aux campagnes d'email marketing et il y en a d'autres qui pourront être aussi applicables dans d'autres domaines de la vente, de l'écriture, de la rédaction de contenu pour vendre. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu as pu constater ?
Absolument. Et d'ailleurs, tu parlais de conseils qu'on donne à l'email marketing, mais qui peuvent s'adapter aussi à d'autres supports écrits. Et l'erreur que je liste maintenant, et vraiment dans ce cas de figure ici, c'est être large au lieu d'être précis. Je crois que le maître mot, quand vous écrivez du contenu, c'est la spécificité. Il faut vraiment aller creuser la psychologie de votre prospect pour comprendre ce qu'il y a derrière. Il faut vraiment avoir le sentiment de lui parler à lui. Imaginons... On arrive au mois de mars, donc on peut se poser la question du summer body. Et si tu travailles sur le domaine de la santé, de l'amincissement, il y a quand même peu de chances que ton prospect se pose la question suivante. Comment je vais me débarrasser de cette surcouche de graisse provoquée par un excès d'alimentation grasse avec un taux de sel trop élevé? On est d'accord qu'il y a quand même peu de chances. Voilà.
Ça me paraît compliqué.
Si tu as fait une bonne enquête, si tu es allé chercher les points de douleur, il y a quand même plus de chances, si on parlait de spécificité, que la question qui vient à ton prospect quand il se regarde dans la glace, c'est « comment je vais perdre ces 4 putains de kilos ?» Voilà. Et finalement, le texte de ton email, il doit être rédigé comme ça.
Ok, donc en fait, on se met vraiment dans sa tête et on arrête de vouloir être trop large avec de partir sur une base qui ne va pas lui parler finalement.
Oui, complètement. On rentre dans la spécificité du message et la spécificité psychologique.
Ok, donc ça, c'est vraiment dans le corps du texte, quand déjà il a cliqué pour l'ouvrir finalement. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu aurais pu noter justement avant le destinataire ait cliqué pour ouvrir le mail?
Ouais, complètement. Selon comment le prospect s'est inscrit dans votre séquence d'email, quand il le reçoit, il est important qu'il n'y ait pas de rupture avec le contenu qui l'a amené à s'inscrire. C'est-à-dire que vous lui avez délivré une valeur via une pub, via un post LinkedIn pour s'inscrire à un programme de formation. Enfin, il cherche à se renseigner. Il doit vraiment y avoir une continuité dans le fond et la forme du message dans l'email. Il ne doit pas pouvoir se dire qu'il est rentré chez quelqu'un de différent.
Et ça, c'est un problème, honnêtement. Je te remercie de l'évoquer parce que c'est un problème que j'observe régulièrement où je me dis, mais comment je suis arrivée là? Pourquoi je reçois ça aujourd'hui? Et finalement, c'est en essayant de creuser un peu, en me disant, ah ouais, ah oui, ok, ça vient de là. J'ai parlé pour ma part, mais je pense que je ne dois pas être très différente. Je trouve que ça crée un manque de confiance.
Complètement, un manque de confiance. Et puis, si tu commences à engendrer ce petit doute, eh ben, du coup, tu vas engendrer quelque chose qui est négatif.
Tu as l'impression d'avoir été un peu berné, quoi. Alors que ce n'est pas du tout l'idée à la base. Hein.
Non, exactement. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait une vraie continuité du début à la fin de ta structure de vente. Et évidemment, l'email doit s'inscrire dans cette continuité.
Et est-ce que tu aurais noté une dernière erreur que, justement, bah, quand on passe en revue nos emails, que soit qu'on en ait déjà créé, soit qu'on n'en ait pas encore créé, on puisse se dire, ok, j'ai tout prêt, tout est fait, j'essaye de regarder si je n'ai pas fait des boulettes. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as encore une erreur à nous signaler?
Oui, absolument. C'est souvent celle des gens passionnés. Je dirais que c'est la malédiction du créateur, comme je l'appelle, qui est que vous voulez dérouler tout votre argument de vente dans un seul email. Il y a de fortes chances que quand vous vouliez parler à quelqu'un de votre programme, de vos produits, quoi que vous vendiez, vous allez lui envoyer plusieurs emails. Il faut vraiment travailler sur ce principe du 1, c'est-à-dire qu'un email égale un argument. Vous ne devez pas développer autre chose. C'est tout cet argument qui doit être structuré à travers l'email qui convertit. Et vous serez bien plus efficace en expliquant à chaque email un seul point. Très clairement.
On est d'accord, on n'est pas obligé d'envoyer qu'un seul mail. Dans ce cas-là, dans nos campagnes, on peut envoyer plusieurs mails. Et dans ce cas-là, on se dit, ok, bah, un mail, c'est une idée, et j'essaye pas de faire le grand déballage dans un seul. J'essaye de pas griller toutes mes cartouches d'un coup, au risque justement de perdre le lecteur. Et au contraire, bah, ça donnera une occasion supplémentaire de communiquer.
Ouais, complètement. Bah, même, évidemment, je conseille de plutôt travailler par séquence pour pouvoir exposer différents arguments ou traiter différentes objections, puisque de toute façon, on en revient toujours au même, un email, un objectif. Et sachant qu'après, l'intérêt d'écrire une séquence, c'est qu'à un moment, vous allez pouvoir toucher et éduquer au fur et à mesure de la séquence votre lecteur, même s'il n'a pas lu tous les mails ou dans l'ordre où vous l'avez prévu. À un moment, d'avoir un seul objectif dans l'email rend votre message plus clair et il se dit « ça y est, j'y vais ».
On est d'accord, ces emails, c'est à vendre. Aujourd'hui, c'est vraiment, on parle de séquence de mails. Donc, c'est quand on veut proposer quelque chose à la vente et que dans ce cas-là, il y a eu une inscription préalable, on est bien d'accord. On l'a mentionné au début de l'épisode, mais je veux vraiment insister là-dessus. La personne est, entre guillemets, consentante pour recevoir cette séquence de mails. On ne parle pas de cold emailing. Ici, on parle vraiment d'une campagne d'email marketing dans le cadre d'une inscription, que ce soit à une newsletter pour le coup, ou que ce soit le téléchargement d'une ressource, voilà, d'une ressource qu'on aurait téléchargée, un formulaire qu'on aura rempli, un événement auquel on se serait inscrit. Parfois, on s'inscrit à un événement et ça déclenche ça. Donc, il y a quand même un élément qui va déclencher ça. Donc, maintenant qu'on a passé en revue les erreurs qui peuvent être commises, quelles sont tes bonnes pratiques justement pour, certes, on ne va pas commettre d'erreurs, mais pour, au contraire, faire des campagnes, des séquences de mails qui vont être percutantes?
Là, j'ai travaillé sur deux points principaux en préparant mon intervention aujourd'hui. La première qui concerne la stratégie sur l'emailing, parce que ça rejoint à la fois une erreur ou en tout cas une question que beaucoup de gens ne se posent pas avant d'écrire leurs emails, qui est en fait la pyramide de conscience du prospect. C'est-à-dire, je m'explique, c'est où est-ce qu'il en est dans la connaissance de son problème et de son produit. Ça a été théorisé par Eugène Schwartz, qui est pour moi un des plus grands marketeurs et copywriters qui ait jamais existé, et qui a posé en fait cette pyramide de conscience en 5 points. Donc, je la déroule très, très rapidement. Donc, on commence le niveau 1, qui est le niveau le plus loin de l'achat, on va dire le bas de la pyramide. c'est quand votre prospect il est inconscient d'avoir un problème, donc il ne sait pas ou il ne s'avoue pas qu'il a un problème. C'est le niveau le plus difficile et vous devez lui faire consommer des informations qui ont pour but de lui faire prendre conscience de ce problème.
Après, si c'est inscrit pour recevoir une ressource ou pour s'inscrire à un événement, un live, n'importe quoi, et qu'il s'est engagé dans notre séquence mail, est-ce que vraiment, et là je me fais l'avocat du diable, est-ce que vraiment on a dans nos bases de contact ce type de prospect ou de suspect à ce moment-là ?
Dans le cas d'un email où il s'est déjà inscrit, non. Mais par contre, merci pour l'habile transition, c'est qu'il va, il peut par contre se situer au niveau 2, c'est-à-dire qu'il a conscience d'un problème. Le prospect est conscient qu'il a un problème ou il a un besoin, mais il n'a pas forcément encore de solution. C'est-à-dire, dans votre exemple, il peut s'intéresser au marketing, un minimum, mais il ne connaît peut-être pas grand-chose. Donc, votre prospect, à ce stade-là, donc au niveau 2, il recherche pourquoi il a ce problème ainsi qu'une lueur d'espoir.
Oui, mais il n'a pas encore, on est d'accord, il n'a pas encore conscience des solutions forcément qui s'offrent à lui. Il sait juste qu'il a mal.
Oui, exactement. Il sait qu'il a mal. Par contre, au niveau 3, il a conscience justement des solutions. Il a un degré de conscience qui sait que des solutions existent et que maintenant, il doit trouver la solution la plus adaptée à la situation et à sa problématique. Ce qui fait que du coup, il passe au niveau 4 de la pyramide, qu'il a conscience du produit. Donc, il a conscience qu'il a un problème, il a conscience qu'il existe des solutions, et le niveau 4, qui est l'avant-dernier niveau, il a conscience que votre produit est une potentielle solution à son problème. Et dans ce cadre-là, vous devez absolument lui donner une bonne raison de choisir votre produit ou votre service.
Pour le passer au niveau 5.
Absolument. Quel niveau 5 ? Alors là, c'est, je dirais, quasiment le Saint Graal, hein. Il a conscience du problème, il a conscience qu'une solution existe, il a conscience de votre solution, et il a même maintenant le sentiment qu'elle est la meilleure. Donc dans ce cas-là, vos messages et vos emails doivent être extrêmement simples, et en gros, vous devez lui dire, maintenant, tu cliques ici pour acheter.
Très clair. Donc, au final, quand on rédige nos emails marketing, il faut vraiment avoir à l'esprit le niveau de conscience de notre prospect.
Absolument, parce que tu as un travail, et ce n'est pas du tout péjoratif quand je l'emploie ainsi, d'éducation de ton prospect. Si tu dois l'éduquer un petit peu plus, tu dois avoir un petit peu plus de mails ou aller un peu plus en profondeur. S'il est vraiment prêt d'acheter, tu vas à l'essentiel, tu ne compliques pas les choses.
Et on est d'accord que justement, les emails sont faits pour lui élever ce niveau de conscience.
Absolument, sauf si après, alors là, on pourrait rentrer dans d'autres notions. Si tu as segmenté une liste et tu as des gens qui ont interagi régulièrement avec toi, ça veut dire qu'ils se situent au minimum au niveau 4 de la pyramide, voire peut-être même déjà au niveau 5.
Donc, okay. Si on fait très, très simple, je veux dire.
Alors oui. Alors dans ce cas-là, oui, effectivement. Tu as bien sûr raison.
Donc, quelles sont tes autres bonnes pratiques ? Donc, une fois qu'on a bien situé le niveau de conscience de notre prospect.
Alors après, là, je vais être un petit peu plus sur la forme, sur la partie contenu. Donc, on parlait tout à l'heure de comment on écrivait. Donc, j'ai envie de dire, il faut travailler vraiment sur la notion de rythme. Tu n'es pas en train de rédiger la nouvelle version du Code des impôts 2024. Tu es en train d'écrire un email de vente. Sinon, l'idée, c'est de rendre, entre guillemets, ton contenu, j'ai envie de dire, vivant et sexy. Pour ça, tu peux insérer des chiffres, des graphiques, des émojis. Tu peux utiliser les 5 sens pour faire ressentir les choses à ton prospect. Et tu peux aussi, ce que j'appelle, jouer de la musique, c'est-à-dire utiliser des rimes, utiliser des répétitions, tout ce qui va permettre et qui va dynamiser ton écriture.
Et concrètement, quand tu prépares cette séquence, ou ces différents types d'email marketing, certes, il y a sur la forme, il y a le rythme, l'originalité, mais qu'est-ce que tu utilises comme matière ? Est-ce que tu vas utiliser les douleurs ? Est-ce que tu vas utiliser, je ne sais pas moi, les bénéfices ? Qu'est-ce que tu vas vouloir mettre en avant ? Je sais que toi, tu parles aussi beaucoup de raconter des histoires. Est-ce que tu aurais des conseils à donner sur vraiment le contenu ?
Tu dois avoir identifié. Alors après, il y a un gros travail de préparation quand tu écris une séquence email. Tu dois avoir identifié, évidemment, les principales douleurs de tes prospects, potentiellement les solutions qu'ils avaient mis en œuvre pour les résoudre. Et tu dois relier ça aux bénéfices de ton produit, c'est-à-dire à la douleur 1 correspond dans ton produit un bénéfice 1. Et tu vas l'évoquer à travers différents emails. Ça peut être soit par des stats, soit par une histoire. L'idée, c'est que le prospect comprenne que tu as conscience de sa douleur et que tu as un bénéfice dans ton produit qui permet d'y répondre.
Merci, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que je pense qu'il faut être clair sur le fait qu'aujourd'hui, tu pourras nous donner de précieux conseils sur comment créer des emails qui vont convertir, mais que la base de la base, pour pouvoir ça, même si on a toutes les techniques, les meilleures techniques du monde que tu nous fournis aujourd'hui, les fondamentaux doivent absolument être claires, notamment sur tout ce qui est compréhension de son audience, de qui on s'adresse, de quelles sont les douleurs, quels sont les bénéfices recherchés. Et ça, j'insisterai jamais assez parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette en place comme action en marketing, si on n'a pas cette connaissance de notre client, eh bien finalement, on risque, et le plus souvent c'est ce qui se passe, de passer à côté ou du moins de ne pas avoir les résultats qu'on attend. C'est pas qu'une histoire de savoir très bien maîtriser ces techniques-là, même si clairement ça compte, mais c'est aussi de pouvoir vraiment comprendre qui est notre client pour pouvoir bien utiliser ces techniques.
Alors, tu sais même pas à quel point je bois du petit lait en t'écoutant, parce que je dis souvent que mon métier est pas un métier d'écriture, mais que c'est un métier de recherche et d'analyse. En réalité, si tu fais sérieusement ton travail, le temps d'écriture et je vais dire de relecture n'est que 20% du temps que tu consacres à écrire ta séquence. Tout le reste est un travail d'analyse et de recherche d'informations dans ce que tu vas faire. Voilà.
Bah écoute, très clair, Olivier, et je vous mettrai en ressources, mais chez My Marketing Experience, on propose au téléchargement un guide pour justement travailler son persona, aider à clarifier son audience cible. Je vous mettrai dans les ressources parce que c'est très complémentaire de toute façon à toutes les actions que vous pouvez mettre en place et notamment aux conseils que nous livre Olivier aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres conseils, Olivier, pour tout ce qui est la forme ? Donc vraiment, tu nous as parlé de donner du rythme. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de donner de l'émotion aussi. Je pense que ça, c'est très important. Et je sais que tu es un as dans cette pratique.
Oui, oui, bah bien sûr, l'émotion, en fait, tu dois générer de l'émotion parce que c'est ce qui va, sans aller trop loin, tu as quand même trois niveaux dans une intention d'achat et dans ce que peut faire un produit, qui est le niveau 1, qui sont vraiment les fonctionnalités, je dirais, basiques, hein, ce que fait ton produit. Le niveau 2, c'est le niveau de l'émotion. Donc, si tu vends en t'appuyant sur l'émotion, c'est forcément plus intéressant. Et le niveau 3, c'est le niveau de l'identité, qui est le niveau supérieur. C'est-à-dire, j'achète tel produit et voilà ce que ça fait de moi. Alors, je peux te donner l'exemple du luxe. Tu vas acheter un très beau sac de luxe et ben, ça fait quelqu'un de toi qui a un statut social. Vrai ou faux, la question, elle n'est pas...
Non, mais c'est statutaire. On se sent proche d'une marque ou d'une identité de marque.
Ouais, c'est statutaire, identitaire, complètement.
Ok, donc si je récapitule, bien connaître le niveau de conscience de son prospect, bien connaître évidemment quelles sont les douleurs de ta cible, et quels sont les bénéfices attendus. Et sur la forme, tu nous as conseillé donc, de jouer sur tout ce qui est le rythme, la tonalité, j'imagine avec l'originalité, d'insérer des chiffres, donc des graphiques, des émojis, ça on pourra y revenir. Tu nous as parlé donc, des émotions, de savoir le bénéfice tangible, ce qu'on appelle, et également les bénéfices émotionnels et statutaires. Tu nous as également parlé de jouer de la musique. Donc ça, c'est vraiment des termes littéraires. Hein. Moi, j'appelle ça donc, des allitérations, des répétitions, des rimes. Il y a effectivement l'idée de pouvoir raconter une histoire qui peut être intéressante. Et j'aime bien aussi l'utilisation des cinq sens. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'image mentale concrète. C'est utiliser des images mentales concrètes, c'est-à-dire vraiment projeter le lecteur dans quelque chose qu'il va pouvoir ressentir. Par exemple, vous avez, alors ça c'est très schématique, mais un nœud dans la gorge ou quelque chose qu'il va pouvoir ressentir physiquement. Et ce que j'aime bien aussi, c'est, et je sais que toi tu l'utilises assez souvent, les parallèles. Tu sais, faire des parallèles ou faire des... Faire ça, c'est comme, je sais pas, moi, je sais que j'avais fait un truc sur construire son offre, c'est comme partir en voyage. Et ça, en fait, ça dédramatise le truc. Et il y a un côté à la fois ludique et à la fois, je rends ça accessible. C'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Ouais, je te suis, on revient à la spécificité. C'est même intéressant, si tu veux pousser le détail jusqu'à là, selon ce que tu fais, de pousser la comparaison à utiliser une image du métier de ton prospect, si tu fonctionnes par métier, par exemple. Ça, c'est un argument de vente, ça lui permet de comprendre tout de suite là où tu veux en venir.
Bah écoute, Olivier, est-ce que tu as encore des choses à rajouter parmi les bonnes pratiques qu'on peut utiliser pour écrire des emails qui convertissent ?
Oui, une dernière petite série de conseils qui est liée à l'écriture, parce que je vois souvent des personnes qui bloquent un petit peu. Je dirais que ce qui est important quand vous vous attaquez à des emails marketing, c'est d'écrire tout de suite un premier jet et de ne pas vous attacher à l'excellence, mais d'attacher à avoir une V1 de ce premier jet, parce que de toute façon, vous allez ensuite... Et quelque chose qui est vraiment essentiel, et c'est une étape à ne surtout pas négliger, c'est la relecture qui va vous aider à condenser, à clarifier, à couper ce qui ne doit pas l'être, à rendre des mots plus impactants. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Vous faites un premier jet et vous le relisez. Voilà. Et ne vous attachez pas à la perfection au premier jet, puisque par nature même, personne ne va le voir. Quelque chose qui est aussi vraiment, vraiment essentiel, ça semble bête, mais c'est de lire à voix haute. On se rend compte, ça fait une vraie différence quand vous lisez votre contenu à voix haute. vous allez vraiment vous rendre compte soit des lourdeurs, principalement, soit du fait que vos idées ne sont pas enchaînées et que du coup, la lecture pour votre prospect ne sera pas fluide. En lisant à voix haute, c'est vraiment quelque chose que vous allez automatiquement identifier.
Et déjà, si tu dois reprendre ta respiration au milieu d'une phrase, c'est qu'il faut faire deux phrases.
Ouais, complètement. Complètement.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'appliquer. Si tu n'arrives pas à le dire d'un coup, c'est que la phrase est trop longue. Donc, tu la coupes en deux, voire en trois parfois, mais faut mettre un point et redémarrer avec une majuscule. Et après, il y a tout ce qui est la forme, comme tu disais, pour éviter les lourdeurs, c'est aérer, bien espacer le texte pour qu'il soit facile à lire. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à la longueur ?
Alors, pas vraiment. Alors, c'est vrai que par nature, ce qui peut être impactant en moins de mots possible, j'aurais tendance à le privilégier. Mais après, selon ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le degré d'éducation, si tu es sur un prospect qui connaît peu ton produit, qui connaît peu sa douleur, il va forcément falloir être un petit peu plus long que si tu t'adresses à quelqu'un qui est déjà tout en haut de ta pyramide. Et après, ce qui va compter, on a en copywriting un concept qui s'appelle le toboggan glissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu écris du bon contenu, ton prospect il est tout en haut, il vient de lire ton accroche et ta première phrase. Mais si ton contenu est bon, finalement, il va glisser naturellement jusqu'en bas.
Écoute, merci Olivier pour ces précieux conseils. J'aurais peut-être une petite question, une dernière question qu'on appelle nous la question signature à te poser. Est-ce qu'il y a un outil ou un conseil qui, toi, te semble utile pour passer à l'action ? Alors que soit toi, tu utilises, soit tu recommandes. J'imagine que quand on recommande, c'est qu'on l'utilise soi-même.
Alors, c'est clair, c'est beaucoup mieux. Oui, il y a quelque chose qui peut être important de faire et vous allez voir, c'est parfois un juge qui est un petit peu cruel mais qui sera vraiment essentiel quand vous allez écrire vos emails, c'est de se poser un certain nombre de questions et c'est souvent de se mettre à la place de la personne qui va recevoir l'email que vous êtes en train d'écrire. Et donc, c'est par exemple se poser des questions, si c'est moi qui reçois ce mail, est-ce que j'ai envie de l'ouvrir ? C'est-à-dire déjà, vous avez validé la ligne d'objet, est-ce que le titre et l'objet de ce mail est suffisamment impactant pour vous donner envie de l'ouvrir. Si c'est moi qui reçois ce mail, est-ce que j'ai envie de le lire ? Donc, ça veut dire, est-ce que vos deux premières lignes, par exemple, sont suffisamment impactantes et fortes ? Si c'est moi qui reçois et qui dis ce mail, est-ce qu'il m'apporte quelque chose ? Là, vous validez l'intérieur et l'ensemble du mail, le contenu proprement dit. Et si c'est moi qui reçois et qui dis ce mail, est-ce que je comprends ce que je dois faire ensuite ? On parlait de l'importance des call to action. Là, c'est est-ce que clairement j'ai pu projeter mon lecteur dans le next step ?
Oui, parce qu'on l'avait précisé dans les erreurs à éviter, on ne l'a pas redit dans les bonnes pratiques, mais bien évidemment, à la fin, dans les bonnes pratiques, à la fin de l'email, il y a ce qu'on appelle le call to action, le passage à l'action. C'est là où on va guider le lecteur vers la prochaine étape. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas voulu trop répéter, mais je pense que tu nous as quand même bien tendu une perche, donc on va quand même le redire. Parmi les bonnes pratiques, il y a ne jamais oublier de faire sa conclusion et ne pas être trop frileux non plus pour indiquer la direction dans laquelle qu'on veut que le prospect prenne.
Non. Artiste maudit, ça ne paye pas en 2024, clairement.
Olivier, je te remercie pour ces précieux conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des messages, lire ta prose, en fait, avec toutes tes jolies comparaisons et les images, les jolies histoires que tu peux raconter. Dis-moi où est-ce qu'on peut te joindre.
Eh bien, le plus simple, c'est tout simplement de me suivre sur LinkedIn. J'imagine que tu mettras le lien dans...
Je mettrai, bien sûr, je mettrai le lien dans les ressources pour que vous puissiez suivre Olivier et même lui envoyer des petits messages si vous avez d'autres questions suite à l'épisode.
Ah, c'est avec grand plaisir.
Olivier, je te remercie beaucoup d'être venu nous révéler tes secrets pour rédiger des emails qui convertissent. À tous, je vous dis à très bientôt. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur la Apple Podcast ou la plateforme de votre choix avec un petit commentaire qui nous fera toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.
Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt !